Est-ce que c'est à New York que vous avez fait la rencontre d'Hemingway?
Blaise Sandrard.
Hemingway à la Closerie des Lilas, à Paris.
Ah, c'est à Paris que vous l'avez rencontré.
La Closerie des Lilas, à Paris.
Mais dans quelles circonstances?
Quand? Vu l'espèce de circonstances, je buvais un pot et lui était là, il doit être en permission, il venait d'être démobilisé, il était avec un matelot américain, lui-même était dans une tenue, je ne sais plus laquelle. Je crois qu'il était affirmé, si je ne me trompe pas.
Ça peut pas faire de mal.
Ils buvaient un pot et puis les buveurs, eh bien les ivrognes. Les ivrognes de deux tables. Ils ont adressé la parole, on a trinqué, on a continué. Et puis ses camarades sont partis. Et j'avais rendez-vous à Montmartre, tenez justement avec Satie. Et alors j'ai plaqué Hemingway dans un bar du haut Montmartre.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Cet hiver-là fut un cauchemar. Ils ont pourtant tout partagé. Ensemble, ils ne s'ennuient jamais. Et ils ont en commun quelque chose d'indestructible. Ils aiment leur enfant, ils aiment Paris, ils aiment l'Espagne, une partie de la Suisse, les Dolomites et skier dans le Vorarlberg en Autriche. Nous avons connu des moments merveilleux au Vorarlberg et je les garde tous en mémoire. L'arrivée du printemps dans les montagnes, l'amour et la confiance que nous éprouvions l'un pour l'autre, ma femme et moi. Ma conviction que nous étions à nouveau invulnérables. Mais invulnérables, nous ne l'étions pas. Et ce fut bel et bien la fin de notre première période parisienne. Et Paris ne fut plus jamais le même. C'était pourtant toujours Paris. Et s'il changeait, vous changiez en même temps que lui. Mais ce n'était plus le Paris de notre jeunesse, au temps où nous étions très pauvres et très heureux. Cri d'amour, hommage joyeux à la ville qui a vu naître les premiers pas d'un grand écrivain, Paris est une fête, a été redécouvert après les attentats qui ont frappé la capitale française le 13 novembre 2015. Ces chroniques de la vie parisienne d'Hemingway ont alors été brandies comme un symbole de résistance. Elles ne constituent pas à proprement parler un roman sur Paris, mais bien plutôt le regard nostalgique de l'écrivain sur ses années de jeunesse. Une parenthèse enchantée qui se déploie de 1921 à 1926. Alors jeune journaliste, il s'installe à Paris avec sa première femme, Adley, et fait le choix de se consacrer à l'écriture. C'est l'histoire de leur vie qui est ici relatée, une vie amoureuse et désargentée, jusqu'à leur rupture, la même année exactement que la publication du premier roman d'Hemingway, Le soleil se lève aussi. Quelques années avant sa mort, en 1961, le prix Nobel de littérature se plonge dans des notes retrouvées dans des malles abandonnées. Il laisse un manuscrit. Le livre a été publié à titre posthume, portant un titre choisi par l'éditeur. Ouvrons ce qu'Ernest Hemingway nommait « ses vignettes parisiennes dans le Paris des années 20 ». Parcourons pour commencer les premières pages de « Paris est une fête ». Des pages vives et légères, joyeuses, à l'image d'Hemingway dans l'exaltation de sa vie d'après-guerre. Jeune marié, fraîchement installé dans une ville au charme inspirant. Il quitte les États-Unis pour l'Europe lors de la Première Guerre mondiale, s'engage sur le front italien, puis correspondant pour un journal canadien, s'installe à Paris en novembre 1921, alors âgé de 22 ans. C'est au cœur du quartier latin qu'il emménage avec sa femme, Adley. L'hiver commence à tomber sur Paris. Notre Américain trouve refuge dans les bistrots de la capitale. Le voici qui entre dans un café de la place Saint-Michel, s'apprêtant à vivre un moment de pleine inspiration, d'ouverture au monde. C'est là qu'il écrit une de ses toutes premières nouvelles, là-haut, dans le Michigan. C'était un café plaisant, propre et chaud et hospitalier. Et je pendis mon vieil imperméable au porte-manteau pour le faire sécher. J'accrochais mon feutre usé et délavé à la patère au-dessus de la banquette et commandais un café au lait. Le garçon me servit et je pris mon cahier dans la poche de ma veste ainsi qu'un crayon et me mis à écrire. J'écrivais une histoire que je situais là-haut dans le Michigan. Et comme la journée était froide et dure, venteuse, je décrivais dans le conte une journée toute semblable. Dans le conte, je décrivais des garçons en train de lever le coude, et cela me donna soif, et je commandai un rhum St. James. La saveur en était merveilleuse par cette froide soirée, et je continuais à écrire, fort à l'aise déjà. Une fille entra dans le café et s'assit toute seule à une table près de la vitre. Elle était très jolie, avec un visage aussi frais qu'un sou neuf, si toutefois l'on avait frappé la monnaie dans la chair lisse recouverte d'une peau toute fraîche de pluie, et ses cheveux étaient noirs comme l'aile du corbeau et coupés net en diagonale à hauteur de la joue. Je souhaitais pouvoir mettre la fille dans ce conte ou dans un autre conte, mais elle s'était placée de telle façon qu'elle put surveiller la rue et l'entrée du café, et je compris qu'elle attendait quelqu'un, de sorte que je me remis à écrire. Le conte que j'écrivais se faisait tout seul, et j'avais même du mal à suivre le rythme qu'il m'imposait. Je commandais un autre rhum St. James, et chaque fois que je levais les yeux, je regardais la fille, notamment quand je taillais mon crayon avec un taille-crayon tandis que les copeaux bouclés tombaient dans la soucoupe placée sous mon verre. Je t'ai vue, mignonne, et tu m'appartiens désormais, quel que soit celui que tu attends, et même si je ne dois plus jamais te revoir, pensais-je. Tu m'appartiens, et tout Paris m'appartient, et j'appartiens à ce cahier et à ce crayon. Je m'enfonçais dans mon histoire et je m'y perdis. C'était moi qui l'écrivais maintenant. Elle ne se faisait plus toute seule et je ne levais plus les yeux. J'oubliais l'heure et le lieu et ne commandais plus de rhum St. James, à mon insu d'ailleurs. Puis le conte fut achevé et je me sentis très fatigué. Je relus le dernier paragraphe et levai les yeux et cherchai la fille, mais elle était partie. Je me sentais triste. Je refermai le cahier sur mon récit et enfouis le tout dans la poche intérieure de ma veste et je demandai au garçon une douzaine d'huîtres portugaises et une demi-carafe de son vin blanc sec. Après avoir écrit un conte, je me sentais toujours vidé, mais triste et heureux à la fois, comme après avoir fait l'amour. Et j'étais sûr que j'avais fait du bon travail.
It's better to miss you, better to miss you. Better to miss you still than never to have had you, never to have held you, never to have kissed your lips. My heart has had it, it's broken down again. A job too big for any mechanic to mend. Its windows are broken, its fender is bent. No can of oil can fix this, there's no monkey wrench. Better to miss you, better to miss you. Better to miss you still than never to have had you, never to have held you, never to have kissed your lips. It's better to miss you than not to have known you. Let me tell you why. The scratches on the bonnet are my love letters and sonnets. So I'm gonna miss you all night. I've been racking up the miles for far too long. The seats are worn out and the radiator grill's gone. And though the steering wheel works just about fine, it takes me in the wrong direction most of the time. It's better to miss you, better to miss you, better to miss you still than never to have had you, never to have held you, never to have kissed.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Pour un véritable écrivain, chacun de ses livres devrait être un nouveau commencement.
Ernest Hemingway.
Il devrait toujours essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait et que d'autres ont essayé de faire, mais en vain. Alors quelquefois, avec beaucoup de chance, il réussit.
Changement de décor. Entrons dans l'atelier de l'écrivain, une petite chambre mansardée qu'il loue au dernier étage d'un hôtel du même quartier, celui-là même d'ailleurs, où notre homme aime à le rappeler, Verlaine est mort. C'est là que le jeune Hemingway passe de longues heures à travailler son style et sa méthode de travail. C'est l'hiver encore. Il nous confie une part de cette intimité dans un mouvement d'introspection joyeuse. J'avais plaisir à grimper jusqu'au dernier étage de l'hôtel où je travaillais, dans une chambre qui avait vue sur les toits et les cheminées de la haute colline de mon quartier. La cheminée tirait bien dans la chambre, où où il faisait chaud, où je travaillais agréablement. J'apportais des mandarines et des marrons grillés dans des sacs en papier et j'épluchais et mangeais de petites oranges semblables à des mandarines et jetais leurs écorces et crachais les pépins dans le feu tout en les mangeant, ainsi que les marrons grillés quand j'avais faim. J'avais toujours faim à cause de la marche et du froid et du travail. Parfois, quand je commençais un nouveau récit et ne pouvais le mettre en train, je m'asseyais devant le feu et pressais la pelure d'une des petites oranges au-dessus de la flamme et contemplais son crépitement bleu. Ou bien je me levais, regardais les toits de Paris et pensais « T'en fais pas. T'as toujours écrit jusqu'à présent et tu continueras. Ce qu'il faut, c'est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. » Ainsi, finalement, j'écrivais une phrase vraie et continuais à partir de là. C'était facile parce qu'il y avait toujours une phrase vraie, que j'avais lue ou entendue ou que je connaissais. Là-haut dans ma chambre, je décidais que j'écrirais une histoire sur chacun des sujets que je connaissais. Je tâchais de m'en tenir là pendant tout le temps que je passais à écrire et c'était une discipline sévère et utile. J'appris à ne pas penser à mon récit entre le moment où je cessais d'écrire et le moment où je me remettais au travail le lendemain. Quand j'avais achevé le travail de la journée, je rangeais mon cahier ou mes papiers dans le tiroir de la table et fourrais dans mes poches les oranges qui restaient. Elles auraient gelé si je les avais laissées dans la chambre pendant la nuit. En descendant l'interminable escalier, quand j'avais bien travaillé, aidé par la chance autant que par ma discipline, je me sentais merveilleusement bien et j'étais libre de me promener n'importe où dans Paris. Hemingway se promène beaucoup. Il aime déambuler, les yeux et les oreilles grandes ouvertes, à l'affût de tout ce qui peut le nourrir, l'instruire. Dans ce court extrait, il nous guide vers un de ses lieux favoris, le jardin et le musée du Luxembourg. Le temps était sec et froid et délicieux à Paris. La ville s'était adaptée à l'hiver, il y avait du bon bois en vente chez le marchand de bois et de charbon de l'autre côté de la rue, et il y avait les braseros à la terrasse de beaucoup de bons cafés pour tenir les consommateurs au chaud. Dans les rues, la lumière hivernale était merveilleuse. On s'habituait à voir se détacher les arbres dépouillés sur le fond du ciel, et l'on marchait sur le gravier fraîchement lavé dans les allées du Luxembourg, sous le vent sec et coupant. Pour qui s'était réconcilié avec ce spectacle, les arbres sans feuilles ressemblaient à autant de sculptures, et les vents d'hiver soufflaient sur la surface des bassins, et les fontaines soufflaient leurs jets d'eau dans la lumière brillante. Si je descendais par des rues toujours différentes vers le jardin du Luxembourg l'après-midi, je pouvais marcher dans les allées et ensuite entrer au musée du Luxembourg où se trouvaient des tableaux dont la plupart ont été transférés au Louvre ou au Jeu de Paume. J'y allais presque tous les jours pour les Cézanne et voir les Manet et les Monet et les autres impressionnistes que j'avais découverts pour la première fois en Amérique à l'Institut artistique de Chicago. Les tableaux de Cézanne m'apprenaient qu'il ne me suffirait pas d'écrire de phrases simples et vraies pour que mes œuvres acquièrent la dimension que je tentais de leur donner. J'apprenais beaucoup de choses en contemplant les Cézanne, mais je ne savais pas m'exprimer assez bien pour l'expliquer à quelqu'un. En outre, c'était un secret.
Bon, je ne lirai pas votre roman, mais voilà ce que je vais faire.
Oui ?
Je l'apporterai à Gertrude Stein.
Quoi ?
C'est la seule personne à qui je confie mes œuvres.
Vous allez montrer mon roman à Gertrude Stein ?
Donnez-le-moi.
Continuons à suivre le guide. Traversons le parc, direction la rue de Fleurus désormais. Au numéro 27 s'y trouve le centre de la vie artistique du Paris des années 20, le salon de Gertrude Stein.
Mademoiselle Stein, c'est un jeune écrivain que je tenais à vous présenter.
Alors, votre livre dont j'ai entendu parler, c'est celui-là ?
Poétesse et collectionneuse d'art d'origine américaine, installée à Paris dès le début des années 1900, Gertrude Stein est amie de Picasso, de Matisse et de tout ce que Paris compte d'écrivains et de poètes. Elle les reçoit avec beaucoup de rituels dans ce tout petit appartement où elle vit avec sa compagne. Ils se fâcheront par la suite, mais à l'époque de Paris est une fête, Hemingway précise auprès d'elle sa formation intellectuelle et artistique, mais pas uniquement. Il a 22 ans, elle en a 48, lorsqu'ils se rencontrent. Laissons Hemingway nous la présenter avant de découvrir une des mémorables leçons qu'elle lui donne. J'avais rencontré Miss Stein au jardin du Luxembourg. Je ne me rappelle plus si elle promenait son chien ou non, ni si elle avait déjà un chien en ces temps-là. Miss Stein était très forte, mais pas très grande, lourdement charpentée, comme une paysanne. Elle avait de beaux yeux et un visage rude. Elle me faisait penser à une paysanne du nord de l'Italie par la façon dont elle était habillée, par son visage expressif et sa belle chevelure, lourde, vivante. Une chevelure d'immigrante qu'elle relevait en chignon. Elle parlait sans cesse et surtout des gens et des lieux. Il se passa du temps avant que je fusse invité à me rendre au 27 rue de Fleurus, à n'importe quel moment, après 5 heures, en hiver. Ma femme et moi adorions son vaste studio et les beaux tableaux. On eût dit l'une des meilleures salles dans le plus beau musée, sauf qu'il y avait une grande cheminée et que la pièce était chaude et confortable et qu'on s'y voyait offrir toutes sortes de bonnes choses à manger et des liqueurs naturelles renfermées en des carafons de cristal taillés et servies dans de petits verres et qu'il s'agit de quetsch, de mirabelle ou de framboise, tout avait le parfum du fruit dont elles étaient tirées, converti en un feu bien entretenu sur votre langue pour la délier et vous réchauffer. J'acceptais son invitation. Je pris donc l'habitude de lui rendre visite. Elle prit celle de m'offrir toujours quelques eaux-de-vie fruitées, insistant pour remplir plusieurs fois mon verre, et je regardais les tableaux, et nous bavardions. C'était elle qui parlait surtout, et elle m'initiait à la peinture et aux peintres modernes. Mais pas seulement. Je n'aimais pas contredire mes aînés, je préférais de beaucoup les écouter, et Gertrude avait beaucoup de choses intelligentes à dire. Cet après-midi-là, j'étais allé la voir avec ma femme. Elle me confia que tôt ou tard, il faudrait laisser tomber le journalisme, et sur ce point, je ne pouvais qu'abonder dans son sens. Elle voulait elle-même être publiée dans l'Atlantic Monthly, me dit-elle, et elle y parviendrait. Elle me dit aussi que je n'étais pas un assez bon écrivain pour être publié dans cette revue ou dans le Saturday Evening Post, mais que je pourrais devenir un écrivain d'un genre nouveau, à ma façon, mais que la première chose que je devais retenir, c'était de ne rien écrire qui fût inaccrochable. Je n'en discutais pas et ne tentais pas non plus de lui expliquer à nouveau ce que je tentais de faire en matière de dialogue. C'était ma propre affaire et je préférais de beaucoup écouter. Cet après-midi-là, elle nous apprit aussi comment acheter des tableaux. « Vous pouvez acheter soit des vêtements, soit des tableaux, » dit-elle. C'est tout le problème. Sauf les gens très riches, personne ne peut acheter à la fois les uns et les autres. Ne faites pas attention à la façon dont vous êtes habillé et encore moins à la mode. Et achetez des vêtements qui soient solides et confortables et l'argent que vous aurez économisé vous servira à l'achat des tableaux. Mais même si je n'achetais plus jamais un seul costume, dis-je, je n'aurai jamais assez d'argent pour acheter le Picasso dont j'ai envie. Non, il n'est pas dans vos prix. Achetez les tableaux d'artistes de votre âge. Des gens qui ont fait leur classe dans l'armée en même temps que vous. Vous ferez leur connaissance, vous en rencontrerez dans le quartier. Il y a toujours de bons peintres parmi les jeunes. Mais il ne s'agit pas tant de vos costumes à vous que des robes de votre femme. Ce sont les vêtements de femme qui coûtent cher. Je remarquai que ma femme s'efforçait de ne pas examiner les étranges oripeaux de Miss Stein et elle parvint à se contenir. Restons en compagnie d'Hemingway et de sa femme, Adley, avec de très belles pages dans lesquelles l'écrivain se remémore un instant de bonheur suspendu dans Paris, sur le fil d'une émotion passée. Nous voici au cœur du livre d'Hemingway, une ode à la jeunesse perdue et à l'ivresse d'un bonheur enfui. Ernest et Adley. Dans peu de temps, il la quittera pour une autre femme, mais pour l'heure, ils sont heureux en effet. Elle l'appelle Tati. Ensemble, ils ont un fils. Ils n'ont pas d'argent. La sensation d'ivresse procurée par la faim se mêle à l'ivresse vertigineuse de l'amour, de la découverte du bonheur et du printemps qui arrive. Quand le printemps venait, même ce que j'appelle le faux printemps, il ne se posait qu'un seul problème, celui d'être aussi heureux que possible. Nous aimions nous promener au bord de la Seine. Avec les pêcheurs et la vie sur le fleuve, les belles péniches et leurs mariniers vivant à bord, les grands ormes sur les berges de pierre le long du fleuve, les platanes et par endroits les peupliers. Il y avait tant d'arbres dans la ville que vous pouviez voir le printemps se rapprocher de jour en jour jusqu'au jour où une nuit de vent chaud l'installerait dans la place entre le soir et le matin. Parfois d'ailleurs, les lourdes pluies froides le faisaient battre en retraite et il semblait qu'il ne viendrait jamais et que ce serait une saison de moins dans votre vie. C'était le seul moment de vraie tristesse à Paris. Vous vous attendez à être triste en automne. Une partie de vous-même meurt chaque année quand les feuilles tombent des arbres dont les branches demeurent nues sous le vent et la froide lumière hivernale. Mais vous savez déjà qu'il y aura toujours un printemps, que le fleuve coulera de nouveau après la fonte des glaces. Et même si le printemps finissait toujours par venir, il était terrifiant de penser qu'il avait failli succomber. Un de ces soirs, tandis que nous rentrions à pied dans la nuit tombante, nous nous arrêtâmes sur le pont neuf pour contempler le fleuve, penché au-dessus du parapet. « Il nous faut vivre le présent et ne pas en perdre une minute », dis-je alors dans un chuchotement à Adley. Regarde l'eau qui heurte le pilier du pont, me répondit-elle. Nous regardâmes, et tout était là. Notre fleuve et notre ville, et l'île de notre ville. Est-ce que tu n'as pas de nouveau faim, dis-je alors. Tout le temps en train de parler et de marcher, j'étais en vérité troublé par ce sentiment de faim. Je me demandais si tout ce que nous ressentions sur le pont lui était dû. Oh oui, bien sûr, Tati, me répondit-elle. Tu n'as pas faim, toi ? Allons dans un magnifique endroit et faisons un dîner vraiment sensationnel. Nous fîmes un merveilleux repas chez Michaud, rue des Saints-Pères. Quand nous eûmes terminé, il ne fut plus question d'attribuer à la faim le sentiment qui ressemblait à une faim et qui nous avait saisi lorsque nous nous trouvions sur le pont. Ce sentiment subsistait en nous. Il subsistait alors que nous entrâmes dans la chambre et alors même que nous étions couchés et que nous avions fait l'amour dans le noir, il subsistait encore. Quand je m'éveillais devant les fenêtres largement ouvertes et vis le clair de lune sur les toits des hautes maisons, il subsistait. J'abritais mon visage du clair de lune dans l'ombre, mais je ne pouvais dormir et restais éveillé, l'esprit obsédé. Nous nous étions réveillés deux fois l'un et l'autre au cours de la nuit, et ma femme dormait paisiblement maintenant, le visage éclairé par la lune. Je tentais de bannir cette obsession. C'était trop stupide. La vie m'avait paru si simple ce matin-là quand, au réveil, j'avais découvert le faux printemps et lorsque j'étais sorti pour acheter le journal des courses. Mais Paris était une très vieille ville et nous étions jeunes et rien n'y était simple, ni même la pauvreté, ni la richesse soudaine, ni le clair de lune, ni le bien, ni le mal, ni le souffle d'un être endormi à vos côtés dans le clair de lune.
Paris, un jour.
Est une fête, mais le livre est aussi l'histoire d'une écriture, et l'introspection à laquelle se livre Hemingway est par moments douloureuse.
Comme il serait simple d'écrire s'il suffisait d'écrire autrement ce qui a déjà été bien écrit.
Ernest Hemingway.
C'est parce que nous avons eu de si grands écrivains dans le passé qu'un écrivain est maintenant obligé d'aller très loin, au-delà de lui-même, là où personne ne peut l'aider. La vie d'un écrivain est au mieux une vie solitaire.
Les temps sont durs, en effet, entre le moment où il décide d'abandonner le journalisme et celui où il devient romancier. On se souvient de sa résolution, écrire sur des sujets vrais, faire passer le sentiment de la vie. Est-ce à dire qu'il écrira sur le journalisme, la guerre qu'il a faite ? Retrouvons-le dans un moment charnière, celui où prennent forme les prémices de son premier roman, Le soleil se lève aussi. L'auteur, installé à la terrasse de la Closerie des Lilas, se livre à un bilan de la situation et nous confie ses pensées profondes. J'avais choisi délibérément une ligne de conduite, abandonner le journalisme de mon plein gré. Tu n'es qu'un pleurnicheur, un sale martyr en toc, me dis-je à moi-même un jour où je me désespérais du manque d'argent. Pourquoi me faire du souci ? Je savais que mes comptes étaient bons et que je finirais par trouver un éditeur en Amérique. J'étais sûr que mes comptes seraient publiés, mais tous ceux que je présentais m'étaient renvoyés. La première fois où j'avais été de nouveau capable d'écrire une nouvelle, après ce jour où tous mes manuscrits avaient été volés à la gare de Lyon, c'était une histoire très simple, et j'avais volontairement omis d'en raconter la fin. Cette omission était due à ma nouvelle théorie. On pouvait omettre n'importe quelle partie de l'histoire, à condition que ce fût délibéré. Car l'omission donnait plus de force au récit et ainsi le lecteur ressentait plus encore qu'il ne comprenait. Bien, pensais-je. Maintenant, j'écris de telle sorte que personne ne me comprend même plus. Aucun doute là-dessus, personne n'a besoin de ce genre de littérature. Mais on finira par me comprendre. De même qu'on a toujours fini par comprendre les peintres. Il n'y faut que du temps et cela exige seulement de la confiance. Je savais qu'il me fallait écrire un roman. Mais cela me semblait une entreprise impossible. Il me fallait parfois toute une matinée pour écrire un seul paragraphe. Depuis que j'avais commencé à fuir toute facilité et à essayer de faire agir mes personnages au lieu de les décrire, écrire m'était devenu merveilleux, mais très difficile. Et je ne voyais pas comment je pourrais jamais écrire un texte aussi long qu'un roman. Il fallait d'abord commencer par écrire des récits plus longs, comme on s'entraîne pour des courses plus longues. Je savais que je devais écrire un roman. Je ne m'y mettrais que plus tard, cependant. Au moment où je ne pourrais plus reculer. Je ne l'écrirai qu'en désespoir de cause, quand il n'y aurait plus rien d'autre à faire pour nourrir ma famille. Je serais réduit à l'écrire lorsque je n'aurais plus le choix et qu'il ne me resterait plus aucun secours. Nécessité ferait loi. En attendant, j'écrirai un long récit sur le sujet que je connaissais le mieux. Quel était le sujet que je connaissais le mieux et sur lequel je n'avais pas encore écrit ni perdu un récit ? Qu'est-ce que je connaissais vraiment bien ? Quel sujet me tenait le plus à cœur ? J'étais assis dans un coin dans la lumière de l'après-midi qui filtrait par-dessus mon épaule et je me mis à noircir mon cahier. Puis je cessai d'écrire. Il s'agissait de l'histoire d'un soldat qui revenait de la guerre, bien que la guerre n'y fût même pas mentionnée. Le lendemain, il me faudrait le mettre en place, ainsi que tout le paysage et les événements. Et pendant des jours, je ferais cela chaque jour. Rien d'autre n'importait. Il ne me restait plus qu'à me maintenir sain d'esprit et la tête légère. Tandis qu'Hemingway réfléchit à son premier roman, il fait la rencontre d'une autre figure majeure de l'époque, autre américain exilé à Paris, Francis Scott Fitzgerald. Ils sont tous deux des représentants de ce que Gertrude Stein a nommé « la génération perdue ».« Vous êtes tous une génération perdue », m'affirma Gertrude Stein, rapporte Hemingway. « Vous autres, jeunes gens, vous avez fait la guerre. Vous êtes tous une génération perdue. »« Vraiment, dis-je ? Vraiment, insista-t-elle. Vous ne respectez rien, vous vous tuez à boire. » Fitzgerald a déjà écrit The Great Gatsby, son troisième roman, qu'il fera bientôt lire à Hemingway. De 3 ans son aîné, il est petit autant qu'Hemingway était massif. Une relation complexe se tisse entre les deux écrivains, une amitié profonde et une grande tendresse, mêlée d'une rivalité artistique. Mais pour l'heure, c'est le coup de foudre. Voici la description romantique qu'Hemingway fait de Francis Scott Fitzgerald. Scott était un homme qui ressemblait alors à un petit garçon avec un visage mi-beau, mi-joli. Il avait des cheveux très blonds et bouclés, un grand front, un regard vif et cordial, et une bouche délicate aux lèvres allongées, typiquement irlandaise, qui, dans un visage de fille, aurait été la bouche d'une beauté. Son menton était bien modelé, il avait l'oreille agréablement tournée, et un nez élégant, pur et presque beau. Tout cela n'aurait pas suffi à composer un joli visage, mais il fallait y ajouter le teint, les cheveux blonds et la bouche. Cette bouche si troublante pour qui ne connaissait pas Scott, et plus troublante encore pour qui connaissait. Fitzgerald propose à son nouvel ami de l'accompagner à Lyon. Le but du voyage serait de récupérer la voiture que lui-même et sa femme, Zelda, y ont abandonnée. L'idée de ce voyage m'enthousiasmait. Je serai en compagnie d'un écrivain plus âgé et déjà consacré, et dans la voiture, nous aurions le temps de parler, et j'apprendrai certainement beaucoup de choses utiles à savoir. J'ai peine à imaginer aujourd'hui que je considérais alors Scott comme un écrivain âgé, mais dans ce temps-là, et comme je n'avais pas encore lu Gatsby le Magnifique, je le croyais d'une autre génération. Je ne le tenais pas pour un écrivain sérieux. En effet, leur histoire commence par une curieuse aventure. Ils ont convenu de se retrouver gare de Lyon dès le lendemain matin. Au programme de leur petit périple, vérifier l'état de la voiture, un excellent dîner, retour sur Paris le lendemain matin. L'aventure commence par un rendez-vous manqué. Le matin du départ, j'arrivais à la gare de Lyon longtemps à l'avance et attendis Scott. C'était lui qui avait les billets. L'heure du départ approchait et Scott n'était pas encore là. Je déambulais le long du train à la recherche de mon compagnon de route. Quand le train fut sur le point de démarrer, j'y montai et parcourus les couloirs. Mon seul espoir était que Scott se trouverait à bord. Je n'avais encore jamais entendu dire qu'un adulte eût raté un train. Mais au cours de ce voyage, je devais apprendre bien des choses. Hemingway fait donc le voyage seul. En ce temps-là, j'avais un assez mauvais caractère, très emporté. Mais au moment où le train express atteignit la Seine-et-Marne, je m'étais calmé, la colère ne m'empêchait plus de regarder le paysage et d'en profiter. Et à midi, je fis un bon déjeuner au wagon-restaurant, agrémenté d'une bouteille de Saint-Émilion. C'était une bonne leçon pour moi. Je n'avais encore jamais accepté une invitation de ce genre et voyageais toujours à frais partagés. Mais maintenant, je ne savais même plus si je reverrais Fitzgerald. Tant que j'avais été furieux, je l'avais dégradé de Scott en Fitzgerald. Plus tard, je fus heureux d'avoir épuisé toute ma colère dès le départ. En effet, ça ne devait pas être un voyage à faire pour un homme coléreux. Lyon n'était pas très gai la nuit. Je ne trouvais pas de nouvelles de Scott à l'hôtel et j'allais me coucher dans ma chambre, d'un luxe auquel je n'étais pas habitué. Je n'avais pas goûté au luxe d'un grand hôtel depuis 3 ans et j'avais ouvert en grand les fenêtres et remonté les oreillers sous mes épaules et ma tête et j'ouvris le premier tome des récits d'un chasseur de Tourguenieff. Jusqu'au moment où je m'endormis, le nez sur mon livre. J'étais en train de me raser le lendemain matin et de me préparer à sortir pour prendre le petit déjeuner quand le concierge m'appela pour dire qu'un monsieur était en bas pour me voir. Je rejoignis Scott à la réception. « Je suis terriblement désolé de ce malentendu, » dit-il. « Tout va bien, » dis-je. Nous allions faire une longue route et je me sentais d'humeur très pacifique. Après un petit déjeuner et un premier verre matinal, nos deux complices vont récupérer la voiture. Le retour à Paris sera rocambolesque. Hemingway n'était pas au courant d'un certain détail. Je fus étonné de constater que la petite Renault n'avait pas de toit. Il avait été endommagé d'une façon ou d'une autre et Zelda l'avait fait couper et refusait de le remplacer. Scott me dit que sa femme détestait les conduites intérieures et ils avaient roulé sans toit jusqu'à Lyon où la pluie avait interrompu leur dernier voyage. À part cela, la voiture était en bon état et Scott paya la facture après avoir contesté le prix du lavage, du graissage et des 2 litres d'huile qu'on avait ajoutés. « Monsieur ne m'a pas laissé remettre le toit », me précisa l'air désespéré le garagiste. « Non ?» On a des obligations envers une voiture. C'est vrai. Ces messieurs n'ont pas d'imperméable, s'enquéra-t-il alors? Non, dis-je. Je n'avais pas entendu parler du toit. Essayez de rendre monsieur plus sérieux, plaida-t-il, au moins en ce qui concerne la voiture. Ah, dis-je. La pluie nous arrêta 1 heure environ après que nous eûmes quitté Lyon. Ce jour-là, la pluie nous arrêta peut-être 10 fois. Les averses succédaient, plus ou moins longues. Si nous avions eu des imperméables, il aurait été assez agréable de conduire sous cette pluie printanière, mais faute de mieux, il nous fallait nous abriter sous les arbres ou dans les cafés le long de la route. Scott se montrait particulièrement heureux de tâter du Mâcon blanc à chacun de nos arrêts. À Mâcon, j'achetais moi-même 4 bouteilles d'excellent vin que je débouchais au fur et à mesure de nos besoins. Je ne suis pas sûr que Scott eût jamais bu du vin au goulot auparavant, et cela le rendait excité comme s'il avait traîné dans les bas-fonds. Certains des démons qui vont hanter Fitzgerald surgissent alors. Scott Fitzgerald tombe dans de sombres pensées hypochondriaques. Hemingway ne parvient pas à le rassurer. Scott me demanda si nous parviendrons à une grande ville avant le début de la fièvre et du délire. Je ne peux me rappeler tous les détails de cet après-midi, mais lorsque nous parvînmes finalement à un hôtel dans une ville qui devait être Chalon-sur-Saône, il était si tard que la pharmacie était fermée. Scott se déshabilla et se coucha aussitôt arrivé à l'hôtel. Nous étions en pyjama car nous avions donné nos vêtements à faire sécher. La pluie tombait toujours très fort dehors, mais la chambre était gaie et éclairée à l'électricité. Scott était étendu sur le lit afin de conserver toutes ses forces pour lutter contre la maladie. J'avais pris son pouls, qui était à 72, et tâté son front, qui était frais. J'avais mis mon oreille contre sa poitrine et lui avais ordonné de respirer profondément et le bruit était parfaitement normal. Écoutez, Scott, dis-je, vous êtes en parfaite santé. Si vous voulez prendre toutes les précautions contre un refroidissement, restez simplement au lit et je vais commander pour chacun de nous une citronnade et un whisky et vous boirez les vôtres avec un cachet d'aspirine et vous vous sentirez très bien. Si vous êtes vraiment mon ami, me dit amèrement Scott, procurez-moi un thermomètre. Je suis en pyjama. Envoyez quelqu'un en chercher un. Je commençais à en avoir assez de la vie littéraire, si c'était cela, la vie littéraire, et je regrettais déjà de ne pas pouvoir travailler et ressentais l'impression de mortelle solitude qui survient à la fin de chaque journée gâchée. J'en avais vraiment assez de Scott et de ses comédies idiotes, mais je trouvais le valet de chambre et lui donnais de l'argent pour qu'il allât chercher un thermomètre et un tube d'aspirine, et je commandais 2 citrons pressés et 2 doubles whisky. Je rentrais dans la chambre où Scott était toujours étendu, comme dans sa tombe, sculpté tel un monument à sa gloire, les yeux clos et respirant avec une dignité exemplaire. En m'entendant entrer dans la pièce, il parla. « Vous avez le thermomètre ? Je pensais que vous le rapporteriez. J'ai envoyé quelqu'un le chercher. »« Ce n'est pas la même chose. » »« Non, n'est-ce pas ? » Il était impossible d'en vouloir à Scott plus qu'à n'importe quel fou, mais je commençais à m'en vouloir à moi-même de m'être laissé entraîner dans cette aventure stupide. Je n'aurais jamais pu penser qu'en partageant avec Scott quelques bouteilles de Macon blanc, sec et très léger, cela déclencherait en lui un processus chimique qui le rendrait cinglé. Scott se releva et me demanda alors si j'avais peur de mourir. Je répondais que c'était selon les moments. Le retour à Paris. Ernest retrouve enfin la chaleur de son foyer. Il me parut merveilleux de retrouver ma femme et nous remontâmes jusqu'à la closerie des Lilas pour prendre un verre. Nous étions heureux comme des enfants qui se retrouvent après avoir été séparés et je lui racontais mon voyage. « Mais est-ce que tu ne t'es pas amusé ? Est-ce que tu n'as rien appris, Tati ? » demanda-t-elle. « J'ai appris une chose. »«
Quoi ? » ?»«
À ne jamais voyager avec quelqu'un dont je ne sois pas amoureux. » fit-elle doucement comme un chat. « Pauvre Scott, » dis-je. « Pauvre de nous, » dit Adley, dont toute la fortune tient dans un encrier. « Nous avons beaucoup de chance, » lui rappelai-je. « Il nous faut être bien sages pour la mériter, » conclua-t-elle. Et nous frappâmes tous deux le bois de la table du café. Quelque temps plus tard, à l'occasion d'un déjeuner chez les Fitzgerald, Hemingway fait la connaissance de Zelda, la femme de Scott. Dans un chapitre intitulé « Les faucons ne partagent pas », il livre ses souvenirs sur Zelda à l'époque de leur rencontre à Paris dans les années 20 et nous fait part des premiers signes de folie qu'il observe chez elle. Scott est follement amoureux, mais on le sait, le couple est tiraillé par la jalousie. C'est un mariage tumultueux qui tantôt nourrit, tantôt empêche leurs œuvres respectives. Zelda avait des yeux de faucon, une petite bouche et des façons très sudistes, avec un accent à l'avenant. En observant son visage, vous pouviez voir son esprit quitter la table et se retremper dans l'équipée de la nuit précédente pour en revenir avec un regard vide, comme celui d'un chat, puis chargé de plaisir, et le plaisir se manifestait sur le fin contour de ses lèvres avant de disparaître. Zelda était jalouse du travail de Scott. Lui décidait parfois de ne plus passer des nuits entières à boire, de faire de l'exercice tous les jours et de travailler avec régularité. Il se mettait au travail et dès qu'il travaillait bien, Zelda commençait à se plaindre de son ennui et l'entraînait dans quelques beuveries. Ils se disputaient et se réconciliaient, puis ils faisaient de longues promenades avec moi pour dissiper les effets de l'alcool et prenaient la résolution de se remettre au travail pour de bon cette fois. Et ils repartaient de bon pied et puis tout recommençait. Chaque jour, il s'y efforçait et il échouait. Il accusait Paris de son échec, la ville pourtant la mieux faite pour permettre à un écrivain d'écrire. Et il rêvait d'un endroit où Zelda et lui pourraient être heureux ensemble de nouveau. Il pensait à la Côte d'Azur avec ses étendues de sable et ses bois de pin. Scott me dit que ma femme et moi devrions y aller l'été suivant et nous allions travailler tous les deux et nager et dormir sur la plage et ne boire qu'un seul apéritif avant le dîner. Zelda serait heureuse, disait-il. J'essayais de lui faire comprendre que s'il voulait s'accrocher, il pourrait écrire, car il était fait pour écrire, et que seule la mort était irrévocable. Nous allâmes l'été suivant à Juan-les-Pins. La santé de Zelda semblait rétablie et tous deux étaient en forme. Zelda était vraiment en bonne santé, me dit Scott, et tout allait rentrer dans l'ordre. La villa était charmante. Je trouvais de bon goût l'unique apéritif que nous devions prendre avant le déjeuner. Tout était très gai et l'endroit effectivement propice au travail d'un écrivain. On y pouvait trouver tout ce dont un homme a besoin pour écrire à la solitude près. La nuit de notre arrivée, Une soirée avait été organisée. Personne ne but rien de plus fort que du champagne. Zelda était très belle et son hâle avait de jolies tonalités dorées et ses cheveux étaient d'un merveilleux or sombre et elle se montrait très cordiale. Ses yeux de faucon étaient clairs et sensibles. Je compris que tout allait bien et irait bien quand, vers la fin de la soirée, elle se pencha en avant pour me parler et me confier son grand secret. « Ernest, ne pensez-vous pas que le chanteur Al Jolson est plus grand que Jésus ?» Personne n'en pensait rien alors. C'était seulement le secret de Zelda qu'elle partagea avec moi comme un faucon partagerait quelque chose avec un homme. Mais les faucons ne partagent pas. Scott n'écrivit plus rien de bon jusqu'au moment où il sut qu'elle était folle.
Madame Scotty Fitzgerald, vous êtes la fille du couple le plus charmant, le plus talentueux, mais aussi le plus tumultueux de la littérature américaine, c'est-à-dire Scott et Zelda Fitzgerald. Alors vous êtes née aux États-Unis, mais à quelques mois après, vous auriez bien pu naître en France.
Oui, c'était très près. Oui.
Alors pourquoi sont-ils venus en France 2 ou 3 ans après votre naissance?
Je pense que à ce temps-là, c'était la chose la plus romantique qu'on pouvait faire. Alors ils ont fait le tour. Tous les auteurs que mon père admirait habitaient plutôt à Londres. Et ils sont allés à Londres d'abord, et puis à Paris, et puis à Venise. C'était le grand tour, comme Henry James, vous savez.
I was never one to wonder what might have been. When a love affair was over, done was done. I preferred to take my chances with exciting new romances. It was fun. But among the many faces and the whiskey breath embraces, there was one. It was not exactly Paris. It was not exactly spring, but it was Beaujolais and flowers, double beds and double showers, and the passion that her kisses used to bring. It was not exactly Paris, and I was not exactly young, but on a quiet night, with the door locked tight, and the silence weighs a ton, of all the girls in my life, I remember one. Not exactly Venice. I never heard a mandolin, but it was kisses and linguine set to Mercer and Mancini, and it was boating in the park and falling in. It was not exactly marriage. It didn't have the longest run, but in my heart of hearts, when the twilight starts and the long, long day is done, of all the girls in my life, I remember one.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
Concluant ce parcours comme Hemingway, entre amour et écriture, le livre s'ouvre et se clôt sur des souvenirs divers, avec le blanc de la neige comme un écran de nostalgie sur le souvenir. C'est l'époque où il se sépare de sa femme. Voici un texte déchirant, intitulé « Nada y pues nada », écrit à Cuba en 1961, 3 semaines avant qu'Ernest Hemingway ne se suicide. Invulnérables, nous ne l'étions pas, et ce fut bel et bien la fin de notre première période parisienne. Certains disent qu'un cœur brisé, ça n'existe pas. Aucun doute là-dessus, vous ne risquez pas de briser votre cœur si vous n'en avez pas. Et beaucoup de choses s'allient pour priver de cet organe ceux qui en étaient pourvus au départ. Peut-être n'y a-t-il rien à cet endroit. Nada. Dans l'écriture aussi, il y a beaucoup de secrets. Rien ne se perd jamais, même si c'est l'impression que l'on peut avoir sur le moment. Ce qu'on laisse de côté finira toujours par refaire surface et ne fera que renforcer ce qui a été conservé. Certains disent que quand on écrit, on ne possède rien avant de l'avoir livré aux autres ou, si l'on est pressé, de s'en être débarrassé. Maintenant que l'époque de ces histoires parisiennes est très lointaine, peut-être n'en possédera-t-on rien tant que l'on ne l'aura pas recréé avec les mots de la fiction. Tout aussi bien, il conviendra peut-être de s'en défaire au plus vite, de peur de se le faire à nouveau dérober. Ils disent bien d'autres choses encore, ces gens, mais n'y faites pas attention. Il part des secrets que nous avons, nous autres écrivains, et qui sont le produit d'une alchimie. On écrit beaucoup là-dessus, surtout ceux qui ne savent rien, ni des secrets, ni de l'alchimie. À l'heure actuelle, ceux qui cherchent à expliquer la création littéraire sont plus nombreux que les bons écrivains. Il vous faut beaucoup de chance, en plus de tout le reste. Et la chance n'est pas toujours au rendez-vous. C'est regrettable, mais il n'y a pas lieu de s'en plaindre, pas plus qu'il n'y a lieu de se plaindre si vous n'êtes pas d'accord avec eux, des critiques qui tentent de vous expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites comme ci ou comme ça. Laissez-les donc à leur explication, même s'il n'en reste pas moins difficile de réconcilier le néant qui est le vôtre et cette partie de vos lecteurs avec laquelle vous vivez et perdurez. Certains vous souhaitent bonne chance, d'autres pas. Un bon écrit ne se laisse pas facilement détruire. Mieux vaut malgré tout éviter les plaisanteries. Non, je n'oublierai pas de continuer à écrire. Écrire était ce pourquoi j'étais né. Ce que j'avais fait et ferai encore. Ils pouvaient dire ce que bon leur semblait sur les romans ou les nouvelles ou sur leur auteur, peu m'importait. Mais il y avait des remises, des endroits où l'on peut laisser ou ranger certaines choses, comme une cantine ou un sac de marin contenant des effets personnels ou les poèmes non publiés, des cartes annotées ou même des armes qu'on n'a pas eu le temps de remettre aux autorités compétentes. Et ce livre contient des matériaux tirés des remises de ma mémoire et de mon cœur, même si l'on a trafiqué la première et si le second n'est plus. Ernest Hemingway se tuera d'un coup de fusil le 2 juillet 1961. Si vous êtes assez chanceux pour avoir vécu jeune homme à Paris, ou que vous y passiez le reste de votre vie, cela reste en vous, car Paris est une fête.
Ça peut pas faire de mal.
Cet Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec Éric Boisset à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.